Virginie Langeroc.
La situation s'apaise dans le Lotchental. La retenue d'eau située en amont du dépôt d'Ebouli commence à baisser, indique l'organe cantonal de conduite valaisan. Les millions de tonnes de gravats qui sont tombés depuis le glacier de Biche mercredi ont enseveli le village de Blatten et ont obstrué la rivière Lonza. Elle s'écoule donc finalement vers l'aval et remplit progressivement le barrage de Ferden en contrebas qui avait été préalablement vidé vendredi. Le risque est qu'une coulée de boue, qu'on appelle aussi lave torrentielle, atteigne le barrage. Il ne pourrait plus jouer son rôle de retenue et l'eau s'écoulerait de façon incontrôlée. La situation est en tout cas maîtrisée et sous contrôle permanent. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a accéléré le rythme de production de ses réserves d'uranium enrichi à 60%, un seuil qui se rapproche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Cette hausse considérable de la production suscite une forte inquiétude, écrit l'agence dans son rapport. L'AIEA déplore la coopération moins que satisfaisante, écrit-elle, de l'Iran, qui a à plusieurs reprises soit pas répondu, soit pas fourni de réponse techniquement crédible. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran se défend d'avoir de telles ambitions militaires, mais souligne que son droit au nucléaire civil, notamment pour l'énergie, en vertu des dispositions du traité de non-prolifération dont l'Iran est signataire. Israël somme le Hamas palestinien d'accepter la proposition américaine de trêve à Gaza ou alors d'être anéanti. L'armée israélienne a récemment intensifié ses opérations militaires dans le but affiché de prendre le contrôle de la totalité du territoire palestinien et de libérer les derniers otages qui sont toujours retenus. Le Hamas dit étudier cette proposition américaine dont on ignore le contenu. Selon l'un des dirigeants en exil du Hamas, cette proposition ne répondrait pas aux demandes de la population. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, hostile à tout compromis depuis le début de la guerre, a appelé hier le gouvernement à employer toute la force nécessaire pour en finir avec le Hamas. 8 membres de l'Association des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, annoncent une forte hausse de production pour le mois de juillet. Ils ont commencé en avril à rouvrir les vannes de pétrole et annoncent donc une nouvelle forte hausse de production. Ils vont sortir de terre plus de 400 000 barils par jour. C'est 3 fois plus que ce qui était initialement prévu. Cette hausse de production pourrait entraîner une baisse des prix du pétrole. En football, le FC Zurich nomme le Néerlandais Michel van der Gag, 53 ans, comme nouvel entraîneur. Il succède à Ricardo Moniz, lui aussi néerlandais, qui avait été démis de ses fonctions à l'issue d'une saison jugée décevante et après seulement 13 mois de collaboration. Du soleil et des températures qui frôlent les 30 degrés aujourd'hui, c'est le menu de la météo. En seconde partie de journée, quelques averses ou orages sont possibles avec de fortes rafales de vent à proximité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
En 2012, près de 1500 œuvres d'art sont découvertes dans le sombre appartement munichois d'un vieil homme, Cornelius Gurlitt. Son père, Hildebrand, était l'un des 4 marchands d'art d'Hitler. Je m'appelle Agnès Léveillé et je vous raconte la folle histoire de la collection Gurlitt, son origine trouble, ses secrets enfouis et les questions brûlantes qu'elle soulève aujourd'hui encore en Suisse dans les domaines de l'art, de la mémoire et de la justice. Le podcast L'affaire Gurlitt, une ombre au tableau, est à retrouver tous les lundis sur l'application Play RTS et sur rts.ch/audio.
Et bien maintenant, chers auditeurs, avec le concours de notre camarade Jacques Asselin, nous allons vous raconter un souvenir de voyage.
Monumental. En plein cœur de Paris, le Grand Palais.
Le but en 1900, c'est que le Grand Palais devienne la vitrine de la France.
Le décor idéal d'un film.
Le plus beau fleuron de l'architecture métallique de l'époque.
Monumental. Joanne Ducey.
Le nouveau Grand Palais, c'est le titre de l'émission de ce jour. Le Grand Palais, vous connaissez peut-être, c'est dans le 8e arrondissement de Paris, c'est à côté des Champs-Élysées, et c'est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Un monument qui va beaucoup faire parler de lui, puisqu'il rouvre ses portes au mois de juin. Le Grand Palais était fermé en fait depuis mars 2021 en raison de travaux. L'objectif était de le moderniser tout en préservant son architecture unique. Alors si vous vous dites qu'il a déjà rouvert, vous avez raison, puisque nous avons pu voir certaines épreuves des Jeux Olympiques de Paris au Grand Palais, où il y avait également des expositions. Mais ça, c'était l'ouverture partielle. L'ouverture complète est annoncée pour dans quelques jours. En effet, c'est le 6 juin que le Grand Palais va inaugurer sa grande collaboration avec le Centre Pompidou, qui sera fermé lui aussi pour travaux. Et cette première collaboration sera à voir jusqu'au 4 janvier 2026 et elle sera consacrée au couple mythique formé par Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely.
RTS Première, Monumental.
Ce grand palais à Paris est connu pour sa nef de 13 500 mètres carrés qui possède la plus grande verrière d'Europe. Il faut savoir qu'au moment de sa construction, celui que l'on surnomme alors le Grand Palais des Beaux-Arts est prévu pour fonctionner sans électricité, raison pour laquelle on opte pour une grande verrière. Le monument, eh bien, il est construit à l'occasion de l'exposition universelle qui s'est ouverte le 14 avril 1900, une expo inaugurée par le président de la République, Émile Loubet. Et c'est le 5 mai 1900 que le monument ouvre ses portes au public, mais nous en reparlerons. Au même moment, d'autres travaux d'ampleur sont réalisés à Paris, avec notamment un chantier important, c'est le Métropolitain. Là, les travaux auront un peu de retard et les visiteurs du Grand Palais pourront prendre ce métro que 3 mois plus tard. Un métro qui fait aujourd'hui partie du patrimoine parisien, il a toujours fait la fierté de la capitale, comme dans cette archive de 1950.
Le métro a 50 ans. Mais oui, monsieur Chapuis, 50 ans déjà, vous avez été le premier le 19 juillet 1900 à mettre en marche la première rame du métro Porte-Maillot-Vincennes. Vous souvenez-vous, monsieur Chapuis? 1900. On criait alors au miracle et monsieur Fulgence Bienvenue, père du métropolitain, apparaissait comme la plus grande figure de l'année.
Revenons au Grand Palais et à l'histoire de sa construction et accueillons notre invité.
Bonjour, je m'appelle Gilles Ploume, je suis historien de l'art et je me suis spécialisé dans l'histoire de l'architecture des 19e et 20e siècles. Je travaille à réécrire l'histoire de cette architecture qui est encore très méconnue. J'ai fait pas mal d'études et beaucoup de livres sur cette architecture, sur des monuments parisiens en particulier, le Grand Palais, Petit Palais, Gare d'Orsay. Et j'essaye de faire redécouvrir cette architecture qui est quelque chose de vraiment fabuleux et qui est complètement méconnu. C'est ce que je montre dans mes différents livres, en particulier dans le dernier sur Paris, architecture de la belle époque chez Paris Gramme.
Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent deux constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peintures et sculptures contemporaines. C'est le tour de force de l'architecte de Glane. À cause des infiltrations d'eau de la Seine toute proche, il repose sur 40 000 pieux de chêne massif.
Archive INA. Le Grand Palais de Paris, c'est un édifice que l'on décide de construire à l'occasion de l'exposition universelle de 1900.
Oui, l'exposition de 89 a eu comme clou la Tour Eiffel et ça avait attiré énormément de monde. Pour 1900, on se rend compte que ça sert pas à grand chose de faire encore dans le spectaculaire parce qu'on sait pas quoi faire, à quoi sert de faire une tour plus haute ou des salles plus grandes. Le clou de l'exposition de 1900 souhaitait quelque chose d'artistique. Quelque chose d'exceptionnel dans le sens artistique et on veut réaliser à l'occasion de l'exposition de 1900 le temple des arts qui était une utopie depuis le 18e siècle et qui devait être, si vous voulez, le grand monument d'une époque post-religieuse, post-monarchique. La République laïque devait avoir son monument phare qui devait être un palais des beaux-arts.
Cette exposition de 1900, elle était importante à l'époque.
C'est la plus grande exposition universelle jamais réalisée. C'est la dernière d'ailleurs, parce qu'après, ce seront plus des... on aura des expositions internationales encore, mais pas universelles. Universelles, c'est-à-dire qu'il faut que ça recoupe tous les domaines du génie humain. Il fallait qu'on présente tout, depuis le plus petit artisanat, toutes les fabrications, les arts, les sciences, la poésie, tout devait être présenté. Et en 1900, on a vraiment été très loin dans ce domaine-là, ce qui a fait une exposition énorme avec des centaines de pavillons. Les gens devenaient fous parce qu'on ne pouvait pas tout voir. Et il y a eu 50 millions de visiteurs, ce qui est plus que la population française de l'époque.
Un homme va beaucoup faire pour la construction de ce grand palais, c'est Alfred Picard, ingénieur, commissaire général de l'exposition universelle, et il va lancer un concours d'idées.
Alfred Picard avait son idée dès l'origine, son idée de construire ce palais. Mais il savait que cette idée aurait beaucoup d'opposition. Donc il a mis en place toute une stratégie. Et dans cette stratégie, il y avait ce concours d'idées pour l'exposition universelle. Concours d'idées qui était biaisé, les gens ne s'en rendaient pas compte, parce qu'il s'était arrangé pour que le programme de ce concours pousse les architectes à trouver l'idée de détruire le palais de l'industrie qui occupait les Champs-Élysées, de créer un axe entre les Champs-Élysées et le Dôme des Invalides et de construire, de reconstruire un nouveau palais des Beaux-Arts.
Plusieurs lauréats vont être retenus.
Il y a eu plusieurs ex-échos, dont Eugène Hénard, qui a eu sa prime pour justement cette idée de destruction du palais d'industrie et de reconstruction d'un nouveau palais, d'un vrai palais des Beaux-Arts. Et donc le jury a tout à fait marché dans le sens que voulait Picard et a dit que la meilleure idée pour l'exposition universelle de 1900, c'était cette construction, ce changement des Champs-Élysées avec la réalisation d'une perspective monumentale depuis les Champs-Élysées jusqu'aux Invalides et la construction d'un vrai palais des Beaux-Arts à la hauteur de la prééminence de la France dans l'art à l'époque.
Le Grand Palais est en vérité une étonnante construction.
Extrait du magazine des arts de l'actualité télévisée, 1966.
La partie de pierre, c'est-à-dire toutes les façades, ne semble être que l'enveloppe à l'intérieur de laquelle l'édifice de fer et de verre est admirablement architecturé sur 200 mètres de long, 55 mètres de large et 60 mètres de haut.
Ce grand palais, il est grandiose, en tout cas c'est l'effet qu'il nous fait, parce que quand on est devant aujourd'hui, on se dit que cette construction elle est totalement sublime, absolument magnifique.
Alors grandiose oui, mais grand non, on a essayé le plus possible de réduire ce palais. À côté des bâtiments d'exposition universelle qui ont été construits jusque-là, à cette époque, il existe encore sur le Champ de Mars le palais des machines de l'exposition 1889, qui fait quand même plus de 100 mètres de large sur plus de 400 mètres de long. À côté, le grand palais a pas l'air très grand, mais
il est monumental.
C'est-à-dire qu'on a cherché pas le grandiose, mais le monumental. Et les architectes auraient bien voulu faire plus grand. On a eu beaucoup de mal à empêcher de Glane. Il revenait toujours avec des idées de coupoles fabuleuses, très hautes. Pour le concours de 1896, qui est le concours pour vraiment le Grand Palais, il avait dessiné une coupole qui devait faire plus de 100 mètres de haut.
Le Grand Palais est le décor idéal d'un film. Et pas seulement d'un film 1900.
Quel est le style architectural du bâtiment ?
C'est compliqué, surtout qu'en fait, il y a trois architectes qui sont intervenus. Et l'architecte qui a fait la partie postérieure du Grand Palais a gardé son propre style. Mais en gros, c'est un style du XVIIIe siècle. Il y a un grand retour à l'époque à un style qu'on a pu appeler un style Gabriel, du nom de l'architecte du XVIIIe siècle. En fait, c'est un style classique français très pur, pas encore trop épuré comme celui du néoclassicisme de la fin du XVIIIe siècle, mais avec toutes les qualités de ce qu'est l'architecture classique depuis Louis XIV et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. On a remarqué en particulier l'ordre ionique, qui est un ordre ionique dit de Michel-Ange, mais qui est en fait l'ordre ionique qui était pris déjà à Versailles.
Donc il y a plusieurs styles qui s'entremêlent.
Oui. Alors en plus, il y a le problème de l'architecture métallique qui, elle, ne peut pas, en laquelle on ne peut pas donner un style classique français.
Monumental.
On parle du Grand Palais, mais il ne faudrait pas non plus oublier le Petit Palais.
Oui, alors c'est tout un ensemble en fait. Il y a le Grand Palais, le Petit Palais en face et le pont Alexandre III. C'est tout un ensemble et le clou de l'exposition, c'est pas seulement le Grand Palais, c'est aussi tout cet ensemble monumental. C'est l'ensemble le plus prestigieux construit sous la Troisième République. Et si vous voulez, après l'Opéra Garnier, c'est le plus grand ensemble monumental construit à Paris.
Je suis arrivé à Paris le 25 août, venant de chez moi.
Extrait des Actualités françaises, sujet humoristique sur un touriste venu de province, 1951.
T'es couillon, je ne savais pas où il était, moi, le Grand Palais. Alors, pardi, j'ai voulu demander la route. J'ai demandé à un petit, là, qui avait l'air vif et parisien. Oh, le Grand Palais, vous savez me dire où c'est, vous?
What did you say?
Le Grand Palais.
Ah, oh, I don't know. I just arrived from the States. Yesterday.
Youbiba, j'arrivais pas à le comprendre celui-là. Oh. Hey, sir, where is the Grand Palais?
Mi dispiace, ma sono italiano, non capisco.
Avec deux dictionnaires, j'espérais bien le tenir, le Grand Palais. Dites, monsieur l'agent, le Grand Palais.
Ben voyons, derrière vous, là, le Grand Palais.
Ah, funérailles. C'était ça?
Comment le site a-t-il été choisi? Pourquoi cet endroit finalement? Pourquoi est-ce qu'on décide d'ériger le Grand Palais à cette place-là?
Alors justement, tout ça vient un peu du concours d'idées. C'est encore quelque chose de très complexe. D'habitude, l'emplacement central, enfin l'emplacement principal des expositions universelles à Paris, c'était le Champ de Mars. Le problème, c'est que le Champ de Mars est occupé par la Tour Eiffel, qui domine le Champ de Mars et qui empêche de faire quelque chose de vraiment nouveau à cet endroit-là. Et de toute façon, l'exposition est tellement importante qu'elle doit déborder beaucoup cet endroit. Donc l'idée, c'est d'occuper non seulement le Champ de Mars, mais aussi l'Esplanade des Invalides, les Jardins du Trocadéro et les Champs-Élysées, entre l'avenue des Champs-Élysées et la Seine, et jusqu'à la place de la Concorde. L'idée, c'est de recentrer l'exposition vers le centre de Paris, vers la place de la Concorde, et de faire l'entrée dès la place de la Concorde, c'est-à-dire qu'on passerait directement du Paris historique à l'exposition universelle, au lieu de traverser des quartiers qui étaient encore un peu faubouriens, pour aller jusqu'au Champ de Mars. Les Champs-Élysées prenaient beaucoup d'importance dans ces expositions universelles, et l'idée que le clou devait se situer par là était importante. Alors, il y a d'autres choses aussi qui sont rentrées en ligne de compte. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi tout un problème de gare. La Compagnie de l'Ouest devait installer une gare sur l'Esplanade des Invalides. Et donc, beaucoup de gens avaient peur, et sans doute avec raison, que cette gare finisse par détruire le site de l'Esplanade des Invalides. Donc Alfred Picard voulait aussi, à cette occasion, sauver le site de l'Esplanade des Invalides. Et c'est pour ça qu'il avait eu l'idée de cet axe entre les Champs-Élysées et les Invalides pour à la fois sauvegarder et mettre en valeur une des beautés du Paris architectural. Donc on se trouvait là entre un premier ensemble monumental qui était la place de la Concorde et un deuxième ensemble monumental qui était l'hôtel des Invalides. Et l'idée, c'était de faire un nouvel ensemble monumental qui ferait le lien entre les deux. Donc on aura à la fois un monument très important de Paris, très important pour la République, et en même temps quelque chose qui met en valeur le patrimoine ancien. C'est une idée très nouvelle à l'époque et qui encore aujourd'hui est assez révolutionnaire.
Gilles Ploum, vous restez avec nous. La suite de l'histoire du Grand Palais et des travaux, c'est dans quelques minutes dans Monumental. Lou and the Yakuza.
Quand je me regarde à travers le miroir, qu'est-il arrivé de ce noir? À nous qui détestions pourtant la PACA, mon tendre ami me brise le cœur. J'ai plein de larmes quand c'est dans mes mouchoirs. Qu'est-il arrivé de ce noir? Une douche de stress dans ma tête, ça m'affecte. Comme un tourbillon, un tsunami, une tempête. There's nothing to Est-ce que les morceaux d'un cœur brisé peuvent se casser? Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent encore être mangées? Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en l'air. La manie de mentir pour se jeter la pierre. On se force à être poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir.
Aujourd'hui, le Grand Palais.
Bonjour, vieux Grand Palais.
Quand débutent les travaux du Grand Palais ?
Alors, les travaux débutent dès la fin 96.
Gilles Ploume, auteur du livre Paris, architecture de la belle époque, édition Parigramme.
En 96, il y a eu les concours, donc dès la fin 96, on commence avec des travaux de terrassement. En 1897, il y a encore les dernières manifestations dans le palais d'industrie, dont le premier salon de l'auto. Et ensuite, on détruit le palais de l'industrie et on commence les travaux vraiment en 97. Alors, les travaux commencent par des terrassements et par, je ne sais pas comment dire ça, bon, en plantant des pilotis dans le sol pour l'affermir. Et là, il y a une erreur des ingénieurs, des ponts et chaussées. Et au dernier moment, on se rend compte qu'il faut... On pensait s'en tirer avec quelques centaines de pilotis. On se rend compte au dernier moment qu'il faut 3400 pilotis et des pilotis très longs en chaîne, jusqu'à 14 mètres de long. Alors, beaucoup de bâtiments, de monuments qui sont vers le bord de la Seine sont construits sur pilotis. Le Grand Palais en est un... Alors beaucoup ont pensé après, oui, c'est sur des pilotis en bois, donc c'est pas solide. Mais si, en fait, beaucoup de monuments sont construits de cette façon-là.
Les travaux du Grand Palais, ils vont durer 3 ans.
Oui, même un peu plus, puisqu'ils ne sont pas tout à fait achevés au moment de l'exposition universelle, et donc ils continuent après l'exposition, après la fermeture de l'exposition. Ce qui est assez, ce qui serait raisonnable pour un bâtiment important, quand on sait que quelques années après, Giraud, l'architecte Giraud, va construire à Bruxelles les arcades du cinquantenaire, et il va faire ça en quelques mois. De même, le palais du Trocadéro a été construit en moins d'un an. Mais là, on veut faire vraiment un vrai palais, quelque chose qui doit durer 1000 ans, en pierre de taille, et donc là, on veut prendre le temps.
On a quand même l'impression que c'est une course contre la montre.
Tout à fait, surtout qu'on a pris du retard dès l'origine avec ces problèmes des pilotis. On a dû en planter beaucoup plus que prévu, donc on a utilisé du temps, on a utilisé des crédits. Ensuite, il y a des tas de problèmes pour l'approvisionnement en pierre, pour l'approvisionnement en éléments de charpente métallique. Les entrepreneurs qui fabriquent ces éléments de charpente sont très pris avec l'exposition universelle. On construit énormément de palais en métal à cette occasion. Et donc, ils ont du mal un peu à suivre, alors qu'on aurait voulu que tout se construise en même temps. En fait, le Grand Palais a vu d'abord la construction de tout ce qui était maçonnerie, et ensuite seulement, on a placé la charpente métallique.
Il y a eu des mauvaises surprises, comme les problèmes de fondation. Ça veut dire que les plans ont sans cesse été corrigés en cours de route, en cours de construction.
Oui, mais c'est pas, enfin, à part le problème des pilotis, il n'y a pas eu d'autres vraiment gros problèmes. Les plans ont sans cesse évolué, mais pour une autre raison. Les architectes à l'époque, contrairement aux architectes de maintenant, qui conçoivent quelque chose, qui conçoivent des plans, et ensuite il faut que tout se passe comme ils l'ont prévu à l'origine. À l'époque, un architecte, ça travaille comme un sculpteur ou comme un peintre. C'est-à-dire, ça commence un tableau et puis ça le retravaille sans arrêt. Ça agaçait assez les entrepreneurs d'ailleurs parce qu'ils pouvaient pas avoir des plans très précis dès l'origine. Par exemple, la maçonnerie, la partie en maçonnerie était faite assise après assise. Donc les architectes donnaient à l'entrepreneur les plans pour chaque assise de pierre. Mais l'entrepreneur n'avait pas le droit d'avoir les plans pour les suivants, parce que l'architecte se réservait le droit d'aller voir sur place ce que ça donnait pour, s'il le fallait, modifier les assises supérieures. Et encore, quand certaines assises ne plaisaient pas, l'architecte pouvait demander de détruire certaines parties pour les modifier. Les entrepreneurs devenaient fous. Et en plus, pour certains éléments décoratifs, par exemple, pour certains éléments importants, l'architecte faisait faire des modèles en plâtre, et donc quand on arrivait à l'assise correspondante, l'entrepreneur allait poser en place le modèle en plâtre. Il devait défaire tous les échafaudages en dessous pour que l'architecte puisse se rendre compte de l'effet. Ensuite, il remontait les échafaudages pour aller chercher le modèle en plâtre, qui en général était renvoyé dans les ateliers. On le modifiait, on faisait un nouveau modèle, qu'on remettait en place, on enlevait en les tous les échafaudages. Etc.
On pourrait plus travailler comme ça aujourd'hui.
Non, mais c'est ça qui est fabuleux dans ce palais et qui est le dernier un peu qui ait pu être fait dans ce domaine-là. C'est encore complètement artisanal, quoi. Il n'y a rien de standard. Tout est fait selon les faits, même dans les plus petits détails. On ne peut plus se rendre compte de ça maintenant. L'architecture a complètement changé au cours du XXe siècle. L'architecte est obligé d'utiliser les standards, d'utiliser toute une industrialisation. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas ça, tout pouvait être repensé, revu par l'architecte. Et tout pouvait être petit à petit amélioré. On pouvait améliorer l'effet de chaque chose. Un bon exemple, par exemple, c'est les escaliers. Quand on doit utiliser des éléments standardisés de l'industrie, on ne peut pas faire des formes très élaborées. Alors qu'à cette époque-là, chaque marche était dessinée pour elle-même. Chaque volet était dessiné pour elle-même. Ce qui faisait des choses très compliquées d'ailleurs. Dans les agences pour le Grand Palais, on comptait plusieurs dizaines d'architectes qui travaillaient sans arrêt à des calculs, à dessiner des éléments de détail pour que ce soit envoyé ensuite à des entreprises de charpente métallique ou à des maçons, des tailleurs de pierre, pour à chaque fois faire un élément particulier pour chaque détail.
Il y avait combien d'ouvriers pour la construction de ce grand palais à Paris ?
Alors en général, on compte les ouvriers pour l'ensemble des chantiers, grand palais, petit palais, pour Alexandre III. Alors ça se compte par milliers, il y a des milliers d'ouvriers, alors pas forcément tous en même temps, parce que on a commencé par des terrassiers, ensuite il y a eu des maçons, etc. On a fini par des sculpteurs. Il y avait des centaines de sculpteurs, par exemple, à la fin, et des sculpteurs d'un grand savoir-faire. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, à Paris, il y avait beaucoup de travail pour ces sculpteurs, avec tous les immeubles qui se construisaient. Et donc, il y avait une formidable mine de main-d'œuvre très qualifiée. Même c'était les sculpteurs ornemanistes qui ont travaillé à ça, et c'était souvent des gens qui venaient des Beaux-Arts. Et en particulier, c'est le Grand Palais a fait travailler pendant sa jeunesse le peintre Matisse.
Quelles étaient les conditions de travail ?
Alors comme c'était un chantier un peu phare, un chantier républicain, un chantier qui avait été initié par un gouvernement plutôt un peu à gauche, on avait essayé de faire les conditions les meilleures. Il y avait en particulier ce qui avait frappé les journaux, c'était un grand restaurant collectif. À l'origine même, ce restaurant avait été conseillé par le cuisinier de l'Élysée, du palais de l'Élysée. Et les gens avaient même des couverts en métal argenté. Tout était fait pour que, à petit prix, ils aient une nourriture la plus saine possible. Il y avait des boissons hygiéniques qui étaient distribuées. Il y avait tout un système. Enfin, on a beaucoup d'archives là-dessus, sur une organisation très complexe pour que les ouvriers aient les meilleures conditions possibles.
C'est quoi une boisson hygiénique ?
Alors,
c'est autre chose que du vin, c'est ça ?
Oui. Alors, c'est à base d'eau, évidemment. C'est à base d'acide citrique et il y avait autre chose dedans. Ça devait pas être mauvais. D'ailleurs, ça a beaucoup de succès. Il fallait qu'ils en fassent des centaines de litres tous les jours.
Un jour gris, avec cette fausse brume qui s'accroche aux arbres sans feuilles, estompait la silhouette de verre du Grand Palais.
Louis Aragon.
RTS.ch/monumental.
Quand on parle du Grand Palais, on pense bien sûr à sa verrière. Est-ce que c'était une prouesse technique ou pas ?
Pas vraiment. Ça, c'est un peu une idée reçue sur le Grand Palais. Et ça vient du fait que des grandes architectures métalliques du 19e siècle, très peu nous sont parvenues, en fait. Il y a eu beaucoup de grands palais d'exposition universelle tout au long du 19e siècle, des très beaux, mais la plupart ont été détruits. C'est quelque chose d'assez fragile, en fait, ces grandes structures métalliques. Et donc, il reste celle du Grand Palais. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que l'ingénieur chargé des constructions métalliques pour l'exposition universelle avait son idée. C'était un ingénieur assez important aussi. Pour lui, l'architecture métallique devait arriver à un stade artistique. Jusque-là, on était resté à un stade technique, on devait arriver à un stade artistique. Donc, ce qu'on cherchait, c'était pas tellement les prouesses techniques, mais de montrer que, avec le métal, avec une charpente métallique, on pouvait faire tout ce qu'imaginait un architecte comme artiste. Et la nef du Grand Palais, c'est ça. Et c'est ça qui fait son côté exceptionnel. Elle a été entièrement dessinée par les architectes et dans une idée très classique. La nef a été dessinée un peu, si vous voulez, comme une église de l'époque baroque. Vous avez deux nefs qui se croisent avec une coupole au centre. Vous avez des arcs en plein cintre qui ont l'air de reposer sur des piliers. Tout ça, ça vient de l'architecture en pierre, de toute une tradition d'architecture, d'histoire de l'architecture. Mais en fait, c'est une sorte de mensonge. Ces arcs en plein cintre ont l'air de reposer sur des piliers. En fait, ils n'y reposent pas. Il y a un travail des ingénieurs, après coup, qui est complètement caché et qui fait que ce qui a l'air de tenir d'une façon tient en fait d'une autre façon, mais caché. Et en particulier, ces grandes voûtes en plein cintre reposent en fait sur des piliers qui sont placés en arrière et qui sont invisibles à première vue. La nef du Grand Palais, si vous voulez, est tout le contraire de l'idée de modernité qu'on a pour l'architecture métallique, qui est une architecture qui utilise la haute technologie. Là, c'est tout à fait faux.
Monumental, Joanne Ducey.
Alors, il n'y a pas que la verrière à voir au Grand Palais. Il y a bien sûr d'autres éléments remarquables, on les a déjà évoqués, comme le grand escalier d'honneur ou encore les différentes sculptures.
Alors, il y a surtout un point important dont on ne parle jamais et qui, là, est moderne et quelque chose d'exceptionnel et une nouveauté technique radicale, c'est l'emploi du béton armé. Tous les planchers de la partie postérieure, tous les planchers du premier étage de la partie postérieure sont réalisés en béton armé. C'est tout nouveau à l'époque. Jusqu'à présent, le béton armé n'avait été utilisé que pour une architecture industrielle. Et c'est pour, à l'occasion de la construction du Grand Palais, pour le Petit Palais aussi, et pour, à la même époque, le Musée des Antiquités Égyptiennes du Caire, qui était construite aussi par les Français, qu'on utilise pour la première fois le béton armé dans un grand monument public. Donc c'est un peu une consécration du béton armé. C'est quelque chose de très important dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire des techniques, et on n'en parle jamais.
Monumental.
Au début, quelle était la fonction première du Grand Palais ?
Alors, le Grand Palais, Picard aurait voulu que ce soit uniquement un palais des beaux-arts, ou à la limite un palais, comme dans l'Utopie, un palais des sciences et des arts. En fait, comme le palais d'industrie était détruit et qu'il y avait beaucoup de manifestations qui étaient organisées au palais d'industrie, il a été obligé de mettre dans le programme pour le Grand Palais qu'on puisse organiser dans le Grand Palais toutes les manifestations qui étaient déjà organisées dans le palais d'industrie. C'est-à-dire non seulement des expositions artistiques, mais aussi des sortes de foires. En particulier, le premier salon de l'auto qui avait déjà eu lieu au palais d'industrie et qu'il faudrait pouvoir continuer au Grand Palais. Ça existait dès l'origine. Il y avait le concours hippique, qui était quelque chose de très important dans la vie parisienne, qui était très important pour l'élevage du cheval en France, qui était un peu sa vitrine.
À Paris, le 18e salon de l'aéronautique française a ouvert ses portes, inauguré par M. Vincent Auriol, président de la République. Une importante participation internationale contribue à faire de ce salon comme le bilan d'une année de progrès dans tous les domaines de l'aéronautique.
Il y avait aussi le salon de l'aviation.
Ah, le salon de l'aviation, c'est plus tard. Je ne sais plus quand était le premier, je crois que c'est vers 1909. Déjà, il y avait le salon de l'auto, c'est déjà pas mal, parce que le premier en 1897, c'était vraiment les tout débuts. Hein.
Le salon de l'auto a ouvert ses portes au milieu d'une curiosité qui cette fois reste sur sa faim, faute de nouveautés véritables. Sans doute la ronde transparente de Simca livre tous ses mystères, sans doute la ronde opaque marque-t-elle dans tous ses détails un effort continu vers un confort et une sécurité toujours plus grande.
Archive INA.
Sans doute Citroën, pour la première fois depuis 18 ans, a-t-il fait un effort en ajoutant une malle arrière à sa classique traction avant. Sans doute, les carrossiers français avec Franet sont-ils toujours au premier rang de la qualité? Et leurs modèles peuvent-ils, comme cette voiture de 8 millions, vendue dès la première journée, se classer comme des modèles du genre? Mais les améliorations sont en général des améliorations de détail, telle cette montre robot qui allume ou éteint automatiquement les feux de position et qui vous évitera soucis et contraventions.
C'est d'ailleurs le salon du cycle et de l'automobile. À partir de 1901, au Grand Palais, ça a commencé à être vraiment le salon de l'auto. C'était quelque chose qui a beaucoup marqué le Grand Palais. Et ça fonctionnait dans l'idée, justement, de... On passe du 19e siècle au 20e siècle, si vous voulez, d'une idée de temple des sciences et des arts, qui remontait au 18e siècle, à l'idée plutôt d'un palais national populaire. Et le Grand Palais, c'est ça aussi. C'était quelque chose d'important dans des républiques un peu sociales, de montrer qu'on construisait un palais pour le peuple. Et donc, toutes ces manifestations comme le salon de l'auto, même si à l'origine c'était pour le peuple, c'était surtout pour rêver, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter, c'était l'occasion de faire des manifestations qui permettent au peuple d'accéder un peu à ces merveilles de la technique.
Et là, c'est la seule machine qui vous permet justement de travailler dans ces conditions. Toute l'huile en une seule fois. Il n'y a plus maintenant de précautions à prendre. Lorsque l'on travaille avec la machine, c'est vous qui ferez la mayonnaise, mais seul. Inutile d'avoir besoin de grand-mère pour tenir le bol et du mari pour brasser l'huile. Plongez l'appareil au fond du récipient. Il n'y a aucun tour de main. Il suffit, lorsque l'on a plongé l'appareil dans le récipient, de le mettre en marche. 15 secondes, votre mayonnaise est terminée.
Au Grand Palais, va y avoir aussi le salon des arts ménagers, qui va durer plusieurs années.
Ah oui, oui, oui.
Tout ça pour dire que finalement, il y avait différents thèmes, il y avait différents salons, histoire de toucher, comme vous le disiez, toute la population possible.
Oui, mais avec l'idée que toujours les salons les plus importants devaient être les salons artistiques. Les autres salons, les autres manifestations avaient en général lieu plutôt en hiver, parce que le Grand Palais était plus difficile à utiliser pour des expositions artistiques en hiver à cause de problèmes de chauffage. Pour des expositions artistiques, il faut des conditions pour éviter d'abîmer des objets fragiles.
C'est à Picasso, le peintre, qu'est consacré, bien entendu, l'essentiel de l'hommage du 85e anniversaire. Dans le Grand Palais de Paris, nouvellement aménagé pour des expositions d'art, 200 œuvres venues de 12 pays différents ont été installées. 100 autres tableaux appartenant aux collections personnelles de l'artiste, 100 Picasso de Picasso, sont venus enrichir l'imposante sélection. Ce déballage exceptionnel a fait pendant plusieurs jours du Grand Palais un véritable capharnaüm, un musée insolite tout à fait dans le style de ces tableaux de Picasso, composé d'éléments disparates et désordonnés en apparence, mais dont un œil averti reconstitue la logique.
Donc toute la belle saison était occupée par des salons artistiques et c'était un fonctionnement très intéressant. C'est-à-dire que toutes les associations d'artistes, en principe à l'origine, avaient droit à exposer là sur une simple demande et en principe gratuitement. Alors malheureusement, petit à petit, surtout avec le grand succès que ça a eu, tout le monde voulait exposer là. Il a fallu faire des choix et puis aussi on a commencé à demander une petite participation et puis petit à petit c'est devenu payant. Mais l'idée d'origine était vraiment intéressante, c'est-à-dire que c'était un lieu où n'importe quelle association d'artistes pouvait exposer. Et au début, dans les premières années, le nombre d'associations était énorme. Depuis les grosses associations comme la Société nationale des beaux-arts ou la Société des artistes français, jusqu'à des tas, une société de photographes, les femmes peintres et sculpteurs, etc. Enfin, et en particulier aussi des associations d'artistes plus d'avant-garde.
Enfin, un écrin digne des chefs-d'œuvre de notre époque.
Le peintre Claude Monet.
Monumental.
Pierce Faccini et Balaké Sissoko.
Aujourd'hui dans Monumental, nous parlons de l'histoire du Grand Palais à l'occasion de la réouverture du monument. Avant la pause, nous parlions des différents salons ou expositions qui ont pris place dans ce bâtiment. Mais ce Grand Palais a aussi eu une fonction plus surprenante et c'était lors de la Première Guerre mondiale, Archives RTS.
Du 28 juin au 4 août 1914, l'Europe vécut des heures paradoxales. Insouciance et enchaînement irrémédiable de paroles, d'alliances, de traités en quelques semaines, tout le continent allait être livré aux flammes, à la destruction et pour des millions d'hommes, cet été 1914 représenta une condamnation à mort à plus ou moins brève échéance.
Dès le début de la Grande Guerre, le Grand Palais est réquisitionné par l'armée, car c'est une propriété de l'État. Le vaste bâtiment va donc devenir une caserne militaire. Des soldats s'y rendent pour recevoir leur équipement avant de partir au front. D'autres y resteront quelque temps. Le monument sert également de dépôt d'armes et la grande nef accueille les véhicules réquisitionnés. Et puis avec l'augmentation des pertes humaines, l'afflux de blessés, la destruction des hôpitaux, des zones de combat, le moindre local est récupéré et transformé en hôpital de fortune. Et le Grand Palais n'échappe pas à la règle. Le monument va alors ouvrir ses portes aux blessés de guerre. Mais rien n'est fait pour recevoir des blessés. Il faut donc adapter les lieux. En seulement quelques semaines, le Grand Palais est nettoyé, désinfecté, cloisonné. On installe le chauffage, le gaz et l'électricité. Quant à l'effectif médical, il se compose de militaires, mais aussi de bénévoles formés par la Croix-Rouge. Tout un service de rééducation se développe également au sein du Grand Palais. Cet hôpital militaire du Grand Palais va fermer ses portes en juin 1919 et la fin de la guerre efface toutes les traces d'installation médicale du bâtiment. Entre les deux guerres, le Grand Palais redevient un lieu d'exposition jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Dans la matinée du 14 juin 1940, les Parisiens atterrés voyaient s'élever à la plus glorieuse hampe de leur ville le drapeau à croix gammée. La Wehrmacht occupait Paris. À 6h30, les premiers motocyclistes étaient arrivés 24 heures plus tôt que prévu. Paris avait été déclarée ville ouverte depuis la veille. Immédiatement, dans un but de propagande, le haut commandement allemand fait défiler à travers la capitale les troupes qui vont prendre position en Normandie. Quelques Parisiens sont là, qui regardent. Le Parisien est naturellement badaud, et il faut qu'il soit là pour voir, même s'il est ulcéré, et même si sa présence a quelque chose d'indécent dans une telle manifestation.
Le Grand Palais est laissé aux mains des Allemands, le monument est réquisitionné pour servir d'entrepôt pour leurs camions, puis pour accueillir deux expositions au service de la propagande nazie. La première, intitulée « La France européenne », a lieu en 1940, suivie un an après par « La vie nouvelle ».
La seconde manifestation de la France européenne, l'exposition de la vie nouvelle, a été récemment inaugurée en présence du général Bridou et du ministre Schleyer. Cette importante manifestation, qui connaît chaque jour un succès croissant, annonce l'épanouissement des préceptes de la communauté sociale de demain.
Contrairement à ce que dit le journaliste dans ce reportage du 17 avril 1942 et produit par le régime nazi, l'exposition sera un véritable échec. Poursuivons l'histoire du monument. Nous sommes maintenant à la Libération et le Grand Palais va être menacé. Tout commence le 23 août 1944 lorsqu'un gardien de la paix tire sur une colonne allemande proche des Champs-Élysées. Les Allemands attaquent alors le Grand Palais avec un char, ils font sauter la porte centrale et c'est le début d'un incendie alimenté par la paille utilisée pour la ménagerie d'un cirque qui est installé sous la nef. Et pendant 48 heures, le feu dégage une fumée noire et provoque des dommages importants. Une unité de pompiers tente d'intervenir pour éteindre le feu, mais les soldats allemands percent les tuyaux des lances. La structure métallique de la nef est endommagée, mais le 26 août, les GIs installent leur jeep dans la nef et le Grand Palais est enfin libéré. Le Grand Palais sera à d'autres reprises menacé, on va en parler avec notre invité. On fait un saut dans le temps et nous voici en 1993 et là, on décide de fermer le Grand Palais.
Oui, il y aura la chute d'un rivet
sous la nef au cours d'une exposition qui avait lieu à ce moment-là.
Gilles Ploume, auteur du livre Paris, architecture de la belle époque, édition Parigramme.
Et c'est quelque chose d'assez dangereux. Heureusement, ça ne tombera pas sur quelqu'un, mais on se rend compte que la charpente métallique a manqué d'entretien au cours de près d'un siècle. Et qu'elle commence à fatiguer et que des éléments peuvent commencer à se disloquer et à tomber. Et ça, c'est le problème de l'architecture métallique, c'est que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entretien. C'est la maçonnerie a eu encore des beaux jours parce que c'est quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus rationnel en fait pour construire.
Il va fermer donc ce Grand Palais en 1993 pendant combien de temps ?
Alors, jusqu'à 2005, hein, si je me trompe pas, oui. Jusqu'en 2000, on ne sait pas ce qui va se passer.
Mais on n'a pas d'idée.
Si. Non, les idées, c'est pas ce qui manque. Hein.
C'est les moyens.
C'est les moyens, c'est la volonté. On ne sait pas quoi choisir. On hésite beaucoup. C'est un endroit très important, les Champs-Élysées. C'est vraiment, et on veut pas rater quoi. Mais on ne sait pas quoi faire. L'idée de détruire même le Grand Palais n'est pas complètement écartée.
Pour les Parisiens et leurs visiteurs depuis 13 ans, le Grand Palais, ce n'était plus que ça. Un bâtiment fermé, un enchevêtrement énigmatique de poutres. Impossible d'imaginer à quoi tout cela finirait par ressembler. Et l'on se disait que peut-être les travaux dureraient une éternité.
Mais ça, quand on regarde cette info, aujourd'hui, on se dit que c'est quand même incroyable d'avoir imaginé une seconde de détruire ce monument, ce patrimoine de la ville de Paris.
Ah, ça a été souvent demandé. Hein. Dès les années 30-40, on trouve qu'il passe de mode. On le regarde comme un peu une survivance d'une architecture académique passéiste. Et beaucoup demandent sa destruction. Il y a même un livre célèbre dans les années 40-50, L'histoire du vandalisme à Paris, et qui raconte tous les monuments qui ont été détruits au cours des âges à Paris. Et bien, ce livre sur le vandalisme déclare que le Grand Palais, c'est du vandalisme et donc il faut le détruire. Et pour l'auteur de ce livre, détruire le Grand Palais, ce serait pas du vandalisme. Parce que le Grand Palais, c'est affreux, c'est pas intéressant, donc il faut le détruire. Et au début des années 60, Malraux confie à Le Corbusier l'idée de construire un grand musée d'art contemporain. Le Corbusier propose de le construire à la place du Grand Palais. Et Malraux accepte.
Il faut annuler les effets d'une longue négligence et chercher tous les moyens par lesquels Paris peut redevenir une ville de beauté et d'harmonie.
Et en fait, c'est la mort de Le Corbusier qui va annuler ce projet et faire que le Grand Palais va continuer, mais avec l'idée que faudrait bien faire quelque chose, que au début, on se dit, on va pas le garder. Alors le problème, c'est que Malraux avait installé dedans plusieurs institutions à titre provisoire. Mais on sait bien que ce qui est provisoire, c'est ce qui dure le mieux. Et donc pendant des années, jusqu'en 93, on a continué dans le provisoire. Et c'est ce qui a sauvé le Grand Palais.
Ce palais est devenu le temple où la nation célèbre l'art de notre temps.
André Malraux, ancien ministre de la Culture.
En 93, il y a cette chute de Rivet, et à ce moment-là, il faut se poser des questions. Les gens sont au pied du mur, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait si on reste dans ces occupations éphémères, c'est pas à la hauteur de ce qu'est la ville de Paris, de ce qu'est l'endroit. Imaginez qu'on a installé là des services d'université, des différents bureaux, etc. Ça n'a rien à faire sur les Champs-Élysées. Mais il faut un projet.
Un grand palais, grands travaux. Pour un tel chantier, il a fallu 550 tonnes d'échafaudage. Les fondations ont été stabilisées et les 700 tonnes de charpente métallique sont en cours de réfection.
Et ce projet sera trouvé, on va sauver le Grand Palais. Depuis cet épisode du Rivet, de nombreux travaux ont été entrepris. Il y aura différentes phases de travaux jusqu'en 2007 et puis en 2021, rebelote, on ferme le Grand Palais et le monument entre dans une importante phase de travaux. En tout, 114 entreprises et près de 290 compagnons, architectes ou encore ingénieurs sont intervenus sur les toits, les façades, les verrières et sur les balcons. balcon de la Grande Nef. Le projet a porté notamment sur la restauration et le nettoyage de la façade et la statuaire, une remise aux normes aussi de l'étanchéité sur la verrière, une restauration des garde-corps de balcon en fer forgé dans la nef, des travaux de ferronnerie, des portes, de l'escalier d'honneur, bref, des grands, grands travaux, coût de l'opération 500 millions d'euros. Vous l'aurez peut-être vu, mais la nef restaurée du Grand Palais a rouvert ses portes pour accueillir les Jeux Olympiques de Paris l'année dernière, et puis d'autres expositions ont aussi été présentées. Mais la réouverture complète est donc annoncée au début de ce mois de juin. Pour beaucoup, ce projet de restauration d'une ampleur considérable a permis au monument de retrouver sa splendeur d'origine, à vérifier lors d'une prochaine visite à Paris.
RTS Première, Monumentale.
L'histoire du Grand Palais, c'était l'émission de ce jour. Un grand merci à notre invité, c'était Gilles Ploum. Il est historien et auteur de nombreux ouvrages sur le Grand Palais. Cette émission peut être réécoutée quand vous le souhaitez sur Play RTS.
Polo et Pan.
Monumental, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement et nous parlerons de l'histoire des sanatoriums en Suisse. Toute l'équipe de Monumental vous souhaite une bonne suite de journée à l'écoute de RTS Première. À suivre les informations, puisqu'il est 15h.